L'État, la police, le gouvernement sont des illusions rétrogrades, donc criminelles. Le fait qu'ils existent réellement aujourd'hui ne leur confère pas automatiquement une réalité future. La peur de Dieu a disparu. La peur de l'État, elle aussi, disparaîtra. Penser à la révolution future, c'est se préparer à une vie où l'État, la police, le gouvernement cesseront de créer une crainte et une fascination collective. La révolution n'a jamais été faite nulle part jusqu'au bout, et moins encore en France, qui a raté ces trois révolutions successives. On ne les a même pas accomplies à moitié, parce qu'on a toujours craint de violer par elles tout ce qu'il y a de plus sacré pour le peuple lui-même. Or, il n'y aura jamais de liberté pour l'homme tant que le sacré du peuple bornera son horizon. L'homme a décapité son roi, mais il n'a pas encore décapité l'idée royale qu'il se fait de lui-même. Chaque homme du peuple se respecte comme son propre roi, et c'est dans ce respect que réside son impuissance quand il est impuissant, sa paresse mentale quand il est paresseux, son imbécilité quand il renonce à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est pas le prolétariat de la General Motors, ce ne sont pas les ouvriers de la General Motors qui vont déclencher l'émeute qui permettra de changer l'homme et de transformer le monde. C'est donc malgré un bon nombre de ceux qui devraient faire cette révolution qu'elle commencera à devenir une réalité pour tous. Cette révolution sera sanglante, comme toutes les révolutions, précisément parce que ceux qui veulent l'empêcher, la rendre impossible, sont d'autant plus puissants qu'ils ont tiré la leçon des échecs de toutes les révolutions passées. Mais ils n'empêcheront pas la société dans laquelle nous vivons de craquer, puisqu'elle craque déjà dans toutes les relations que nous avons les uns avec les autres. Un jour qui viendra dans un an, dans deux ans, dans 20 ans, peu importe, plus ce sera retardé, plus ce sera violent, les gens vont comprendre que les valeurs de l'argent qu'on leur impose comme les seules valeurs réelles sont aussi infâmes que les valeurs digestives. Ils vont comprendre que la révolution n'est pas une loi de l'histoire, comme on leur apprend à l'école pour les en dégoûter, mais une exigence fondamentale du cerveau d'individu, le dard et le sexe de leur existence. Ils vont comprendre que la vie et les émotions personnelles n'ont d'intérêt que dans la mesure où elles sont le pivot de la rage de tous les peuples. Et calmement, ils prendront les armes. Le plus simple alors, ce ne sera pas de sortir dans la rue, revolver au poing, et de tirer au hasard dans la foule, comme Breton le croyait en 24. Mais ce sera de prendre d'assaut les ministères, les immeubles de la presse, les banques, les aérodromes, les stations de télévision, les centrales électriques et atomiques, les universités, et pour cela, d'encercler d'abord les casernes, de paralyser tout l'appareil militaire de la répression, en instituant partout la désobéissance civile, sans oublier un seul instant ce que disait Thoreau, ce qu'il continue de nous dire, ce qu'il dira toujours: tout homme qui a raison contre les autres constitue déjà une majorité d'une voix. Une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est même pas alors une minorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. Il faut vivre aujourd'hui en prévoyance de ce jour où la minorité révolutionnaire fera obstruction de tout son poids. La révolution commence maintenant, au moment où je parle. Elle est déjà présente dans l'agression commise par chacun des mots que l'on prononce. Elle surgit au sein même de l'exigence de bouleversement que fonde la parole. Il n'y a qu'une cette parole jusqu'au bout pour la faire. L'homme qui parle est un révolutionnaire avant la révolution. L'homme qui se tait, lui, n'est un révolutionnaire que s'il fait la révolution. Mais il a besoin de l'homme qui parle, de l'homme qui écrit, pour faire apparaître en lui, pour faire vibrer en lui, pour élargir en lui le sens de ce qu'il fait. Personne ne peut révolutionner innocemment. Mais c'est une fameuse camisole de force que l'apathie. La France en fait l'épreuve, car la loi qui nous gouverne engendre le silence. Comme Dieu, l'État est mort, et nous avons partout son cadavre devant nous qui bouche notre horizon. Si nous continuons à nous taire, nous serons comme des morts gouvernés par d'autres morts. Et notre vie n'aura même pas le sens que peut avoir le silence entre deux phrases. La carence de la parole glacera la révolution. L'impossible est là, devant nous, dans ce renoncement arbitraire qui nous empêche de traverser cette immense tête de méduse qui s'appelle aujourd'hui l'État. Nous n'appartenons plus à notre présent. Notre pensée l'a devancée. Nous sommes arrivés au bord d'une toute autre rivière, celle où notre mutisme lui-même va crier, se faire entendre. Je n'oublie pas que ceux qui ne m'écoutent pas ne sont pas forcément sourds. Mais le fait même que je parle de cette manière, aujourd'hui, prouve que quelque chose ou quelqu'un, quelque part, comprend. Sinon, je n'existerai pas. Et ma parole ne serait que du bruit.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Vous êtes sur Radio Galère, en direct, en quête d'un cinéma indépendant, en quête d'un cinéma sauvage. Vous venez d'entendre un extrait du film Détruisez-vous de Serge Barre, de 1968. Premier film du groupe Zanzibar. C'était Alain Jouffroy qui vous parlait. Nous sommes aujourd'hui avec Julien et Julien. Vous m'entendez ?
On t'entend, on t'entend. Alors, ce soir, révolution et cinéma, cinéma dans la révolution, expérience collective, expérience alternative, avec de l'histoire, revenir peut-être au groupe Medvedkin, expérience Zanzibar, parler des expériences collectives de maintenant avec Julien et Julien et Fabrice. Et par quoi commencer? Peut-être qu'on pourrait commencer par toi, Julien, celui qui est debout, qui roule sa petite cigarette. Tu sais qu'il faut fumer discrètement. Donc commencer par toi, l'expérience de Dodescaden à Lyon, où avec un collectif, vous avez ouvert un lieu sans autorisation et vous avez essayé de créer une dynamique autour de projections de films, pour en dire quelques mots.
Alors, Julien 1. Je ne sais pas si on va jouer le jeu du Julien et Julien pendant longtemps, mais c'est difficile après de parler d'une dynamique quand on entend la révolution commence maintenant, où je parle. Oui, donc voilà, on peut introduire comme ça quelque chose de collectif, de gens qui se réunissent sur l'idée de montrer des films au départ et qui sautent sur l'occasion d'une occupation d'un lieu pour expérimenter ça. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui se répète d'une idée, de liste de films qui se font en un an et demi, et puis à un moment donné, le lieu se déclenche, la possibilité de lieu se déclenche, et du coup l'exercice de cette idée-là se met en lieu et s'essaye, s'expérimente sur une durée assez courte, 3 mois, et du coup ça fait vivre des choses, voilà.
D'accord.
Comme ça.
Et cette expérience, elle a été, c'était vraiment un groupe qui a pris un lieu et après s'est organisé sous une fréquence des projections qui se faisait de bouche à oreille.
Non. C'est un lieu qui apparaît comme possible. On se jette pas dessus en se disant bouffe, on l'occupe tout de suite. Ça déplace l'idée des programmations. Donc on réfléchit à une programmation qu'on va mettre en lieu. Donc ça évacue un certain nombre de films impossibles. C'est les vœux pieux de voir la rétrospective complète Robert Kramer s'écarte. Enfin, voilà, c'est des choses. Donc, c'est y aller où est-ce qu'on peut et quel est le sens que ça peut avoir d'ouvrir une salle et de montrer des films, si ce n'est du coup, donc les choses se tissent comme ça très très vite, d'ouvrir sur des collectifs qui existent déjà, soit dans des salles, soit dans des structures de production, soit dans des structures d'édition. Soit dans... Donc, de parler cette question qui nous agit en même temps que, qu'on la vit voilà, avec d'autres. Quoi. Voilà.
Alors, au début, ça. Il y a combien de personnes à l'initiative de ce projet ? Vous êtes
c'est à échelle variable. Il y a au tout départ dans le collectif qui informe de gens qui se retrouvent pour discuter de films, il y a peut-être une quinzaine de personnes. Et puis c'est tournant, des gens rentrent, viennent, reviennent, pas satisfaits. Et puis le moment où ça se cristallise autour du lieu, donc là je parle d'un an et demi qui se passe, on est d'abord peut-être une 5-6 écrémés sur cette année et demie, qui rencontrent des gens qui sont 2-3, qui amènent cette idée de lieu, et du coup se fondent quelque chose d'autre qui n'était pas ce qui était pensé avant, parce que c'est la rencontre entre des gens qui étaient vraiment excités par l'idée d'ouvrir le lieu simplement pour le mettre à disposition, enfin participer au projet comme ça, donc les choses s'imbriquent comme ça. Donc je sais pas, 12 personnes, et après, une fois que le lieu est ouvert, une dynamique qui fait que sur les temps des 3 mois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, sitôt que les portes sont ouvertes, viennent pour... voilà, ça frappe, qu'est-ce qui se passe, et puis ça, oui, pardon, ça participe beaucoup.
Et c'est à Lyon ?
C'est à Lyon, oui, c'est ça, il fallait dire, oui, ouais, à Lyon. Ça s'est passé à Lyon en mai 2010, ça a été ouvert au public de mai à juillet.
D'accord, parce qu'à Lyon, c'est quoi la situation par rapport à la question de...
La situation à Lyon, c'est beaucoup d'associations qui existent depuis longtemps, certaines qui ont disparu par épuisement, parce que les gens n'en pouvaient plus, d'autres renaissants, enfin voilà, des choses en pointillé, mais qui n'ont jamais reçu le soutien. C'est pas une question de soutien nécessaire, c'est pas demander un soutien directement, mais qui ont buté contre un ensemble d'interdictions posées très très clairement, et puis d'un manque de
volonté politique.
Oui, d'un manque de volonté politique, et en même temps un manque de soutien d'autres associations, enfin quelque chose qui est très divisé en fait, qui survit péniblement. Donc ça fait des échéances comme ça de choses. Il y a des associations qui ont tenu dans le temps, comme les Inattendus, qui existent depuis 12 ans, mais qui n'avaient pas de lieu. Donc c'était à la fois pas une priorité pour eux, et en même temps, c'était un manque terrible, parce que du coup, ça ne fonctionnait que sur une logique de festival, donc un truc événementiel qui s'est mis à se raréfier d'année en année, qui est devenu un festival, on ne dit pas biannuel, on dit enfin, tous les 2 ans. Quoi. Voilà.
Biennale,
c'est ça. C'est évidemment, c'est ça. C'est ça le mot magique. Merci, la culture, David. Maintenant, Merci. C'est la biennale. Donc voilà, une situation. Et en plus, pour couvrir tout ça, ce qui a été le feu de départ, c'est la fermeture d'une salle. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, elle est assez longue, mais disons qu'il y avait... un cinéma de quartier, un petit cinéma, un cinéma de quartier, il ne faut pas déconner, c'était de l'art essai porteur, mais en même temps avec des plages ouvertes pour des assos, pour des films plus fragiles, et avec une politique quand même assez ouverte à ce type de film. Et c'est une de ces salles, il y avait 3 salles qui fonctionnaient comme ça, qui s'appelait le Cinéma National Populaire, donc c'est lié au TNP, le Théâtre National Populaire. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire à Lyon, mais bref, qui rien que dans le mot avait une connotation assez forte et renvoyait quand même à une certaine idée de la culture, même si c'était complètement privé, racheté par un propriétaire. Et il se trouve que c'était racheté par un type qui est un mafieux absolu dans le milieu de la distribution, enfin de l'exploitation cinématographique, et qui a vidé une de ses salles du jour au lendemain sans prévenir les salariés. Et vous, il y a une sorte de creux de vide qui s'est posé. Voilà.
Ça commence par un M.
M, voilà, ça, faut pas en dire plus.
M le maudit.
Il est connu à Marseille pour Monsieur M.
Mais c'est ça. Voilà, il est connu à Marseille aussi, mais à Paris et Marseille. Donc voilà, on va faire de la mauvaise pub, n'y allez pas. Mais ça ne va pas durer longtemps en même temps. Donc tu peux bien même nous entendre, on peut lui dire que ça ne va pas durer longtemps. Son temps lui est compté plus que le nôtre.
Donc tu dis qu'à Lyon, voilà, quoi, il y a une petite... Il n'y a pas beaucoup de... Avec cette fermeture-là, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc la dynamique vient aussi de...
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de trucs, mais cette salle disparaît, donc ça se cristallise. Nous, quand il y a la possibilité du lieu, on se dit, oh, on y va. Et évidemment, on parle de ça, c'est l'occasion de se redemander ce que veut dire ouvrir une salle aujourd'hui. Je ne suis pas certain que ce soit le modèle de ce cinéma-là, mais plutôt le croisement de... Et comme on était tous au sein de ce collectif, oui, ce que j'ai pas dit, on était, enfin, des programmateurs, parce qu'on était tous amenés à montrer des films, on faisait tous, enfin, beaucoup faisaient des films aussi. Ouais. Donc,
c'était une démarche de cinéaste.
Oui, en même temps, voilà, oui.
D'accord.
Donc ouais. ça fait qu'il y a de gens qui montrent, enfin, qui se disent cinéastes ou vidéastes ou documentaristes, oui, oui. Ou enfin, de gens qui font des images et qui du coup les montrent dans des festivals, donc voient d'autres films. Enfin, déjà en lien avec cette histoire qu'on se dit depuis toujours, qui est bordel, où sont les lieux où on peut. C'est pas à la fois montrer ce qu'on fait, mais montrer ce qu'on a vu déjà. Tu vois, enfin, il y a ces deux échelles là.
Ce que j'en sais, Julien, à propos de Descan, je connais pas beaucoup de choses sur cette aventure là, mais ce qui en ressort, c'est une aventure qui a fonctionné à l'énergie, une grande énergie. En quoi elle a répondu à déjà vos utopies, à vos rêves à ce moment-là de faire vraiment ce que vous aviez envie de faire, complètement librement, avec le recul que tu en as, qu'est-ce qui s'en dégage de cette époque-là, de cette expérience-là? Comment vous l'avez vécu?
Je m'arrête sur le début de ta question, excuse-moi, c'est ça qui m'a arrêté, je pense qu'à ça. Donc c'est pas pour soulever la maladresse, c'est juste qu'il y a un truc qui me toque. C'est sur cette idée qu'on puisse avoir une conscience de ce qui se vit, comme si ça avait répondu à un désir que j'avais. Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ces histoires de l'envie. Je crois que ça se conjugue pas au présent. Tu sais pas ce qui est envie dans ce que tu fais les choses. Et c'était justement ça qui était totalement excitant, c'est-à-dire que on poussait le possible à sa concrétisation réelle. Et à un moment donné, il y a envie de faire ce film, de montrer ce film, parce qu'on dit que c'est important, parce qu'on pense qu'il faut le montrer à un public. Enfin, tu vois, c'est des choses qui nous traversent sur des films. On acte le fait qu'on va le montrer, donc on y va. Donc ça veut dire quoi? Il faut ouvrir un lieu, on va ouvrir le lieu. Il faut des sièges, on va avoir des sièges. Il faut un écran de cinéma, on a un écran de cinéma. Il faut un projecteur 16, on a un projecteur 16. Et on jouait avec l'idée d'avoir un projecteur 35. Et rien ne nous arrêtait là-dessus. On était juste un peu. Et là, enfin, je fais partie de ceux qui sont un peu leurrés dans l'énergie, c'est qu'évidemment, ça demandait un truc. Donc, on n'est pas allé jusque-là.
Donc, tout s'imposer en nécessité.
Tout s'imposer en nécessité. Et parce qu'on y croyait qu'on avait suffisamment bétonné le truc, on savait, en occupant le lieu, quelle était à peu près la programmation du premier mois, quels étaient les horizons des gens qu'on avait déjà contactés pour les faire venir. Ça, c'est évidemment, tout n'était pas prêt. Mais tu vois ce que je veux dire? On avait une base. Et en même temps, tout ce qui avait à voir avec la procédure judiciaire était complètement anticipé. Donc on savait ce qui allait se passer, d'accord, on attendait les flics, on savait combien de temps durait la procédure.
Quand est-ce que ça s'arrêtait?
Quand est-ce que ça s'arrêtait? Donc que cet exercice pourrait se faire jusque-là. Et donc on a revendiqué, quand on a tout envoyé, parce que le premier jour de l'occupation, on a envoyé un dossier à tous les élus, la culture et la ville de Lyon, on revendiquait d'entrée une zone d'occupation temporaire, une zone cinématographique temporaire, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Parce qu'on savait par ailleurs, alors je ne vais pas raconter le truc jusqu'au bout, mais si c'est important politiquement, parce qu'on nous a reproché d'avoir... On savait, le jour où on a occupé, le bâtiment qui appartenait à la mairie venait d'être vendu à un privé. C'est-à-dire que le compromis de vente, le jour où on a occupé, 15 jours avant qu'on occupe, le lieu venait d'être vendu à un privé, à une boîte de com. Ça veut dire que le compromis de vente était vendu. Donc on surfait sur deux temporalités qui étaient à la fois les 2 mois et demi qui sont à peu près ceux de la procédure judiciaire et en même temps les 2 mois et demi notariés d'une vente. Donc on savait que de toute façon, septembre, on aurait non seulement les flics, mais qu'en plus ça passerait en droit privé et que là on n'avait plus de levier politique. Enfin là on est juste chez un mec, on le fait chier, il dit tout est moi au cinéma, j'en ai rien à foutre et la mairie n'est plus du tout. Donc il y avait ce truc-là, on prend ces 2 mois et on va les prendre vraiment. Ce qui a marché, enfin. C'est toujours pareil, il ne faut pas s'emballer. Évidemment, on n'a pas de lieu là, et ça y est, c'est pas là, pouf, on ouvre demain. Mais on est devenus des interlocuteurs politiques, on en a discuté, et puis les gens se sont positionnés politiquement, ils ont dû répondre de quelque chose par rapport à ça.
Mais en même
soit
temps.
Les élus locaux, et donc voilà, la chose avance, quoi, elle se parle.
Ouais. Mais en même temps, tu veux quitter Lyon. En même temps, tu veux quitter Lyon.
Oui, en même temps, je vais quitter Lyon. Alors, je vois bien. Alors, la personne qui pose la question a participé à cette aventure. C'est important. Parce qu'elle est en même temps animatrice de l'émission. Et il y a un conflit d'intérêts là qui se joue. Oui, je veux quitter Lyon, mais pas pour dire que c'est impossible et que ça ne marche pas. Tu as raison de le dire. C'est-à-dire que ne nous emballons pas. C'est ça que tu veux me faire dire. Les choses sont plus compliquées que ce qu'on pense. C'est-à-dire que, mais c'est ce que je voulais dire par là.
En fait, ce qui s'est joué,
ce qu'on a dit après coup, et c'est ce qu'on se dit maintenant, les expériences sont toujours compliquées. Je pense qu'on va en parler. Mais ce n'est pas une histoire d'échec. C'est-à-dire qu'on est dans une telle, on est dans une telle, dans un tel manque,
nécessité
une telle
de,
nécessité
de
que
faire.
Sitôt que quelque chose s'exerce en nombre, on veut y façonner les contours d'un collectif en disant blum. Parce qu'on a besoin de s'accrocher sur le terme même de collectif. On s'accroche sur une, sur bon bah c'est ça vous montrer. on s'accroche sur une histoire, je veux dire. Là, il faut que je termine mes phrases parce qu'on est à la radio quand même. Là, je pensais à vous montrer le groupe Zanzibar. On pourra peut-être revenir là-dessus. On n'en parlerait pas comme ça. Enfin, moi, je retiens quelques trucs, mais je suis pas d'accord avec un ensemble de choses où ça résonne d'une autre manière aujourd'hui. Quoi.
Donc l'éphémère était d'emblée quelque chose qui allégeait
une revendication, mais en même temps en se prenant dans la gueule qu'on jouait avec l'événementiel. Donc c'est compliqué, tu vois. C'est à ne pas vouloir surtout pas être dans le feu d'artifice. Et je dis ça, je suis un aficionado des feux d'artifice. Ouais. Enfin, j'aime ça, mais pas surtout parce que c'est la logique. Ville de Lyon est siglée aujourd'hui ville d'événements. C'est comme ça qu'elle fait sa publicité. Donc. Bon, je passe la parole à Julien parce que enfin je sais pas comment.
Peut-être juste tu voulais dire sur le film Détruisez-vous.
Sur.
Ah oui.
Sur Détruisez-vous. Je réagissais par rapport à ça, c'est-à-dire que nous-mêmes et là je m'inclus dedans. On va chercher là une référence à laquelle on devrait pouvoir répondre quelque chose. C'est comme s'il fallait qu'on dialogue avec ça. On peut, hein. Enfin, on pourrait prendre le temps de discuter de ça. En même temps, je trouve ça maladroit. De notre part, c'est-à-dire il faut qu'on avance, on introduit cette question de l'utopie en allant chercher un discours sur l'utopie, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. On se dit qu'on peut pas le porter en ouverture d'émission en disant juste on va vous parler de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il nous
pas
faut.
Forcément.
Plus exactement, on s'accroche à des références qui sont un peu toujours les mêmes. Alors pas celle-ci.
Mais
aller chercher dans le cinéma le groupe. Moi, j'aurais rien à dire sur le groupe Medvedkin. En fait, j'aurais à dire sur. C'est quoi le pré c'est le pré de Bégin, en fait. On parlait du pré carré dans les appartements et dans les trucs. Voilà, en fait. On a parlé de Medvedkin tout à l'heure. Mais c'est Eisenstein. Non, mais c'est le film de Medvedkin avec le pré et le cheval. Là. C'est quoi
Le bonheur.
Ah, ouais, voilà. On va peut-être parler du bonheur. Non, oui, d'accord.
C'est Medvedkin,
oui. Oui, c'est voilà. Ouais. Non, pardon, excuse-moi pour cette.
Bon, Julien, allez, à toi. Alors.
À toi.
Toi, tu fais du judo, Julien,
ouais,
c'est ça.
Tu veux que je te parle de quoi, là?
Du judo. Non, mais je voulais savoir s'il y avait un lien entre le judo et le dojo. Ou pas du tout, le cinéma.
Tu veux que je te raconte cette histoire-là?
Ouais, parle de cette histoire du
Mais vous
du
la connaissez
judo.
Pas, en fait.
C'est une histoire clandestine. Très, très
donc, bon. C'est une histoire faussement collective, en fait. C'est-à-dire que, au départ, on parle en ce moment, présentement, on parle d'un endroit qui s'appelait le Dojo Cinéma. On parle d'un endroit qui s'appelait le Dojo Cinéma et qui produisait des films à une époque et qui doit encore continuer à en produire, bien que je n'en sache plus rien, ayant pour ma part quitté cet endroit depuis un certain temps. On était quelques-uns, très peu nombreux, et notre point était un point de non-culture, c'est-à-dire qu'on était juste des amis, on torchait nos gosses ensemble. Et
vous en aviez déjà.
On en avait déjà, on avait donc 30 ans. Et on se préoccupait de choses diverses et variées dans la vie. Et en particulier, pour reprendre l'intitulé de ce pourquoi nous sommes convoqués par toi ici, Fabrice, ce soir, on n'était pas spécialement intéressé par la question du cinéma, ni par la question des alternatives, ni par la question des utopies collectives. Simplement, on était ensemble et on avait des choses à construire. A priori d'abord autour de nos enfants et autour d'une rencontre, de plusieurs rencontres. On se rencontrait à cette époque-là parce que le fait d'avoir des enfants, ça permet de se rencontrer. Et voilà. Et en fait, tu vois, par rapport à l'intitulé comme ça, cinéma alternatif, utopie collective, je sais pas, nous à l'époque et moi encore maintenant, la question n'est pas de délivrer des espèces de blanc-seing ou de bons points comme ça pour dire oui, il y aurait une façon pour le cinéma de construire des alternatives ou de définir des utopies collectives, je ne sais pas. Nous, ce qu'on se disait juste, on venait d'horizons très divers. Moi, à l'époque, je travaillais plutôt comme éducateur de rue, enfin dans l'éducation populaire, etc. Les camarades du dojo, ils étaient plutôt dans l'art contemporain ou je sais pas trop quoi. Bon, voilà. Nous, on s'interrogeait sur cette chose qui nous appartenait déjà à tous. C'était au début des années 2000, c'était cette question du cinéma. Les écrans n'avaient pas du tout la même présence il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Enfin, il y avait des questions qui sont en train de se résoudre maintenant ou de se poser différemment. Bon. Et pour nous, la question, c'est qu'on était complètement paumés par rapport à la question cinématographique. C'est-à-dire que, tu vois, pour le dire comme ça, on pouvait dire qu'à l'époque, on pouvait envisager simultanément que le cinéma avait été... enfin, que des films avaient été des choses qui nous avaient permis de construire nos pensées politiques, etc. On a tous... c'est quoi ? C'est le début du Fond de l'air est rouge, comme ça, où il y a Simone Signoret qui dit... et tout d'un coup, quand j'ai vu dans le cuirassé Potemkin le mot « frère » écrit en grand et tout. Ça, c'est des émotions qu'on a tous vécues. de se dire que le cinéma est vecteur de quelque chose et de vecteur d'une émancipation et d'une découverte du monde et d'une façon de s'unir à l'autre. Et puis à la fois, il ne faut pas oublier que le cinéma a été inventé par des gens qui étaient des patrons d'usine. La première chose qui a été filmée par le cinéma, c'est le contrôle des ouvriers à la sortie de l'usine. Et les inventeurs du cinéma ont été des collabos, enfin, tu vois, des tenants du régime de Vichy. Donc le cinéma est comme porteur d'une espèce de trucs impurs comme ça, c'est-à-dire que simultanément on sait bien que la production cinématographique elle est essentiellement vulgaire, essentiellement pornographique, essentiellement dégoûtante quoi, que c'est un des lieux de l'oppression, un des lieux de l'oppression la plus grande qui existe dans le monde et qu'à la fois évidemment dans le même mouvement c'est porteur d'une émancipation. Donc nous, on était perdus dans ces trucs-là. On était quelques-uns à essayer de faire des films, et puis pour penser la question de l'alternative, on était tous à se demander, c'est bien beau d'énoncer une alternative dans les films, etc., mais quand tu vois quelle est l'organisation sociale qui est inhérente au cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde qui pose en des termes plus crus et plus vulgaires la question du pouvoir, la question de la hiérarchie, etc. Enfin, et ça, c'est pas que propre au cinéma d'ailleurs, mais dans tous les milieux artistiques, tu vois, tout le monde veut être libre, et pourtant c'est le lieu du triomphe de la question de la propriété. C'est-à-dire que la propriété intellectuelle est une question qui bouleverse tout le monde, etc. Et quand tu grattes un peu avec des gens, ils ont leur boucle d'oreille, etc., hein, tout ce que tu veux. N'empêche que sur cette question-là, sur la question de la propriété, sur la question de tout ça, tu te rends compte que c'est pas si net que ça, que les choses sont floues, quoi. Que en fait, dans le même mouvement où il y a une émancipation possible, eh bien, c'est un peu... C'est pas si net que ça qu'il y a un mouvement d'émancipation à travers tout ça. Et puis sur la question des utopies collectives, tu te dis, ouais, le cinéma, c'est le chemin d'une construction. Et pourtant, il y a un paradoxe premier dans tout ça, qui est que le cinéma, c'est tout sauf une utopie, puisque c'est un lieu. C'est-à-dire qu'on va au cinéma. Donc c'est un lieu qui a une place dans la ville. C'est toutes ces salles de cinéma dont on ne peut que constater que ce sont la plupart du temps des espèces d'aberrations architecturales. Enfin, des choses. C'est quand même assez compliqué d'envisager des lieux aussi laids dans le monde globalement. Enfin, une telle construction de la laideur. On a tous été frappés par ça en rentrant dans une salle de cinéma, de se dire mais comment.
Parce que c'est maintenant. Parce que
toujours. Ouais, c'est-à-dire il y a une organisation. Il y a une organisation du cube, quoi. Il y a une question d'une organisation, un truc où. Ou quand même, il y a des super beaux
cinémas à Marseille, non? Dans les théâtres, etc. Enfin,
oui, dans les théâtres. Ouais. Voilà. Donc la question de l'organisation, si tu veux, de l'organisation.
Cinémas, c'est des salles de foire. Voilà. Ça se déplace, et, tu vois, il y a ce pari-là, il y a cette histoire-là. Elle est difficile, cette histoire du cinéma.
Oui, mais
là, t'en dresses une qui est dure.
Oui, mais qui est à la fois l'histoire du cinéma, c'est l'histoire de l'électrification, etc. Ouais. Tu vois, le rêve du cinéma forain, il s'est arrêté au moment où il y a eu l'incendie de la place Clichy. Enfin, voilà, où d'un coup, il a fallu... voilà, le cinéma, ça tue les gens, on les met dans des salles, etc. Donc nous, en tout cas, on ne savait pas comment du tout se dépêtrer par rapport à ces questions-là. Toujours est-il qu'on se les posait. On se les posait à l'endroit de la fabrication de films. On était là, quelques-uns. Tout d'un coup est apparue la possibilité d'un lieu. Un lieu qui était un dojo, donc avec des tapis au sol, comme ça. Un truc où on faisait du judo. Enfin, le judo était enseigné,
en tout
cas,
où ça
pratiquait. Et où un d'entre nous disait, écoutez, on va pouvoir diffuser des films là. Mais en fait, l'enjeu pour nous, c'était pas du tout de diffuser les films ou de créer un énième lieu de diffusion culturelle. C'était de se dire, on est dans un endroit, c'est un endroit dans lequel on a l'habitude d'être. On a tous des interrogations portées sur ce que c'est que de fabriquer des films et ce que c'est que de les partager en commun. Voilà un endroit pour explorer ça.
Donc ça part d'un lieu commun, d'une pratique de judo commune, finalement, quand même.
Non, la pratique n'était même pas commune à l'époque, ça part juste de la possibilité d'un lieu. C'est-à-dire de se dire, justement, ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire il y a bien un lieu où quelque chose va pouvoir s'éprouver.
Et vous laissiez les tatamis ou vous les enleviez?
Non, on se déchaussait.
C'était pieds nus, alors.
C'était une salle pourrie de 30 mètres carrés, si tu veux, avec des tapis au sol, où on faisait du judo, donc ça sentait les pieds et la transpiration. Et là-dedans, on avait mis un vidéoprojecteur. À l'époque, c'était une chose un peu rare.
Vous passiez du Jackie Chan.
Au départ, on a essayé de faire de la culture, c'est-à-dire on invitait les gens d'Etna, on programmait des choses comme ça. On invitait Zanzibar, on a eu Jackie Reynal et les gens comme ça, qui sont venus nous voir. Donc on était un lieu très cultureux comme ça, cultureux plus plus.
Et il y avait un salut quand on rentrait sur le tatami ou
non, pas du tout. Pas du tout. Le lieu était désacralisé, si tu veux, puisque. Voilà. Et donc, on arrivait, on montrait des films, parfois dans de bonnes conditions, parfois on topait le projecteur 16 ou le projecteur 35 qui allait bien. La plupart du temps, c'était la VHS pourrie. Hein. C'était le début des années 2000, donc il n'y avait même pas le DVD pour tous. Enfin,
alors, ça, Julien, justement, en termes de projection, comment ça se passait? Vous étiez équipé de quoi, en fait?
De rien.
De rien.
D'accord. Vous
de rien.
Projetiez en quel
Je te dis, on avait du Super 8, on avait du Super 16, on n'a jamais eu de 35, ça ne nous intéressait pas. De toute façon, la technique est une soumission aussi. On essayait d'expérimenter autre chose. Donc, on projetait ce qu'on pouvait projeter. Une fois, ce qu'on avait fait, c'était... si, justement, on peut le dire avec le judo. Et donc, une fois, on avait projeté la télé, par exemple. Un truc comme ça. Et progressivement, donc, on a dressé des programmes. Et donc, l'idée, c'était...
Je voulais revenir à ce qu'on disait. Là, c'est juste la technique, c'est une soumission. Julien, tu dis, tu peux pas dire ça.
L'autre Julien.
Je dis ça par rapport au judo. Non, mais c'est parce que je trouve
c'est
ça.
Marrant, vous avez la même voix tous les deux.
Ah oui, on a la même voix. C'est bien. Alors, on va dire autre chose. C'est trop dur. Je te coupe. Tu veux bien?
Non, je coupe.
Parce que ton histoire de dojo, moi, ça me fait penser à un atelier de physiologie d'un savant fou qui invente le cinéma avant les industriels, qu'il fait dans son. Donc, à un autre crédit. Et puis, qui commence par filmer des nuages au ralenti, en fait. Et ça peut être ça, le début du cinéma. Moi, j'aime bien celui-là. Donc on commence par filmer des machines à fumer au ralenti, et puis parce qu'on se prend à filmer tous les mouvements, on filme des corps, et puis les corps on les diversifie, et puis on ne sait pas pourquoi, mais on va filmer des chutes de chats, des chutes de gens, et puis on va filmer des gens, et puis il se passe quelque chose. Donc il y a les frères Lumière, il y a l'industrie, il y a tout ça, mais il y a déjà ça aussi là, à cet endroit. Et que la question des lieux là du coup c'est plus du tout les mêmes. Je vois le dojo comme cet atelier de physiologie, et que tous les lieux on pourra peut-être batailler peut-être un peu sur ce terme d'utopie, je sais pas si c'est lieu ou pas. Enfin, c'est compliqué cette histoire d'utopie, hein, mais qu'il y a des chambres à 12 murs, et ça c'est la chambre de Vertov, c'est-à-dire qu'il y a des chambres où les murs tombent, à un moment donné, parce que je crois pas qu'on puisse vivre sans lieu. J'ai un écran devant moi, je suis pas certain qu'à cet endroit-là, dans cette dissolution totale du truc, voilà. Donc que les choses aient lieu. Donc oui, c'est un truc autoritaire, il y a une austérité de la salle, il y a une austérité du dispositif, mais je crois qu'il bouge, il peut bouger, à partir du moment où on fait bouger les images, justement ces images-là qui bougeaient déjà, parce que c'est des nuages qui étaient filmés, mais les frères Lumière font ça, ils filment aussi des tas de foin qui brûlent, et il faut voir, il y a l'arrivée du train, et puis il y a d'autres images qui construisent le cinéma sur lesquelles on peut s'accrocher, et je pense que c'est ça qui nous accroche quand on fait ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a, dans Dojo Cinéma, je ne pense pas que vous pensez l'austérité de la salle et l'industrialisation complète et cette mainmise complète d'une structure d'autorité et de pouvoir. Si, vous pensez à ça en montant ce lieu ?
C'est la question de
l'économie. C'est-à-dire de travailler avec ça, du coup. Ouais.
La question
dans un endroit où la discipline est inscrite même dans la pratique sportive.
Et pas qu'un peu.
Et
mais dans ces deux expériences-là que vous parlez, le dojo et d'Odescanet, la question de l'économie, elle se posait comment ?
Pour nous, dans cet endroit qui était à Montreuil, la question économique ne se posait pas. Elle ne se posait pas. C'était de l'amateurisme, si tu veux. Du pur amateurisme, sans aucune volonté de reconnaissance et tout. C'était un terrain d'expérimentation pour quelques personnes qui s'étaient donné un lieu qu'ils avaient ouvert au public. Voilà, c'était tout. Donc, jamais il ne nous est venu à l'idée de demander la moindre subvention. De toute façon, le lieu n'était pas aux normes de sécurité.
Pas de payante entrée.
Non, on partageait un repas après. On n'avait pas de frais. Et c'est évidemment l'endroit où on a le plus, tous individuellement, on a le plus travaillé. C'est-à-dire que c'était une histoire en termes d'occupation, du volume de temps, etc. Mais c'était vraiment un lieu gratuit.
Et les copies des films, vous les.
On projetait sans aucune autorisation.
Pour nous, l'économie s'est posée.
La question des l'économie.
Bah oui, forcément, elle s'est posée parce qu'on avait, pas un flèche et qu'il faut monter une salle et qu'il faut donc tout ça et qu'on voulait absolument rétribuer d'une manière ou d'une autre les gens. Il fallait payer les trajets des gens qu'on voulait inviter parce que les gens qu'on a fait venir venaient de partout en France.
Il y avait une question d'inviter les gens le plus possible.
Et puis la question de trouver une forme de rétribution pour, et puis il fallait payer des bières pour le bar et puis il fallait voilà assurer oui, un
donc il y avait une
mais en fait
il y a eu
une économie qui s'est faite de manière totalement pirate et qui a permis d'investir
c'est-à-dire pirate si tu
bah c'est-à-dire qu'on a monté un bar
ouais.
C'était un squat en fait
d'accord
on
ouais,
a pris une tireuse on a vendu
et l'eau, tu peux mettre ton on a micro vendu comme des ça aussi
ouais, ouais.
Regarde, tu tournes un petit peu c'est beaucoup mieux et puis tu le mets voilà.
C'est donc mieux. Tu disais ouais tu
oui voilà donc il y a une économie
qui serait forcément de bourrage de gueule pour
non pas bourrage de gueule parce qu'il y avait quand même un essai de mafia on essayait de fermer le bar pendant les projections enfin okay, c'était pas
oh, menteur.
C'est un lieu qui disait
menteur.
Non mais c'est vrai on a essayé
respect de l'artiste quand même
non mais il faut être honnête avec ça quand même je veux dire c'était pas un endroit qui était repéré comme l'endroit dans les torches
ah non
enfin, y avait mais
c'est vrai que
images, donc les gens venaient quand même dans l'idée de voir des images pour mon torcher la tronche
pour mon expérience personnelle par exemple quand on a fait la journée Jean-Luc Godard. Ça a commencé à 10h du matin et ça a terminé à peut-être 2 ou 3 heures avec les histoires du cinéma. Et j'ai été ivre à la fin et c'était
oui,
un souvenir de cinéma, un des plus grands souvenirs de cinéma que,
ouais, ouais, mais y
que
y
j'ai
plein,
vécu.
Peut-être qu'il faut parler de ça aussi.
Et l'ivresse jouait beaucoup.
Oui.
Alors parle-nous de ces moments.
Du coup, non, mais l'ivresse, elle est à tous les endroits là. C'est-à-dire qu'il y a.
C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où c'était variable. C'est-à-dire que les projections.
Le principe, c'est qu'on a, enfin, on a voulu jouer d'un terrain d'expérimentation jusqu'au bout dans cette logique-là. C'est-à-dire que on avait mis des sièges qui étaient modulables, donc avec un écran qui pouvait se déplacer dans l'espace. Dispositif de projection qui permettait aux gens qui étaient invités aussi de pouvoir se mettre à l'aise ici, de voir si à un moment donné, pour une raison X ou Y,
allongé, assis,
pourquoi pas, mais aussi l'orientation de l'écran préféré. On était emmerdés parce que c'était un long hall de 39 mètres de long sur 6 de large, donc c'est vraiment un couloir, mais suffisamment large pour arriver à segmenter l'espace. Et puis aussi, on voulait montrer les installations vidéo, donc du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, c'est parce que l'énergie a pris comme ça. Au départ, on s'était fait un calendrier, on va se dire raisonnablement, on va faire 2 soirées par semaine. Puis, ouais, attends, il faut en mettre ça. Puis, bon, après, ça devient un truc. Mais c'est 2 mois et demi, donc ça va, on peut y aller. Donc, du jour au lendemain, on changeait tout l'espace.
Oui, parce qu'encore une fois, vous aviez cette échéance en tête. Et donc, il y avait que plus ça allait, plus ça se remplissait, du coup.
Voilà, et on voulait y aller vraiment.
Ouais,
quand Julien dit on travaille, c'est un investissement complet, total. Quoi.
Ouais.
Et donc la question économique, elle se pose juste sur la faisabilité de la chose.
Voilà.
Parce qu'évidemment, nous, on n'a rien touché.
Ouais.
On a évidemment participé. Le lien entre l'énergie et l'argent, là, pour le coup, il est lié. On a tous mis notre poche pour que ça existe.
Vous, Julien, vous étiez à Lyon, donc quand je dis vous, bien sûr, l'équipe, en réseau déjà, donc avec pas mal de personnes, puisque c'est comme l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Donc la question de l'ouverture au public était déjà allée de soi. Enfin, je veux dire,
oui,
était déjà.
Dit, mais c'est pour ça qu'on est occupé. On ouvre le lieu, on y va, on essaye.
Parce qu'il est où le lieu il était installé.
Il était. En plein centre-ville.
Ouais.
Lyon, le premier arrondissement de Lyon. Donc il y a une place avec la mairie. C'est un truc extrêmement pompeux, un peu chiant. Et se poursuit comme ça en montant vers le nord par une petite colline qui était la colline. Et on était là, à cet endroit-là, donc on est à 500 mètres du centre-ville, quoi. Dans un jardin, donc c'est démonté, c'est assez beau, il y a des escaliers, c'est un jardin en fleurs, c'était au printemps, t'avais des cerisiers au premier étage, dans le lieu où on dormait, enfin, il y avait un truc féerique, c'est-à-dire qu'à un moment donné où tu pousses la porte, ça je devrais pas dire ça, théoriquement, c'était ouvert, il y a un truc, l'utopie, elle est là, en réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça harnaché à une idée et à une volonté de le faire, les choses se déclarent devant toi comme... s'ouvrant la possibilité de ce truc. Et c'est délirant comme pendant 2 mois et demi, les choses sont montées.
Ouais.
Parce qu'on...
Après, y a une question quand même, c'était la question du public. Et on a épuisé le public, on peut le dire. À la fin, il y avait plus grand monde dans les salles parce qu'on était trop ambitieux sur... Par exemple, on a fait à l'ouest des rails, je me souviens, où on était 2-3.
Oui, mais parce qu'on n'a pas fait...
on était épuisé et on a épuisé le public aussi.
Non, je ne crois pas qu'on a épuisé le public. C'est pas qu'il ne revient pas, c'est que nous, on ne faisait plus les efforts de communication, de discussion, de relais.
L'énergie du groupe qui était...
Enfin, je veux dire, le premier mois, la programmation était pensée au début, on avait appelé les gens bien en avance. Les 15 derniers jours, d'ailleurs les 15 derniers jours ne devaient pas exister, on les a poussés parce qu'on ne voulait pas partir, et on s'est dit en juillet... On va pas partir fin juin, on va partir mi-juillet. Et en juillet, on a fait des projections tous les jours. Et là, enfin, des projections tous les jours, les gens ils viennent pas à 50 tous les jours. Oui,
puis c'est...
Donc oui, il y a un truc, on l'a fait à l'épuisement.
On l'a fait à l'épuisement.
Alors que ouais. Julien, qu'on ait pu épuiser le public, c'est un peu. Enfin, on fort. Le... Ça serait un honneur, quoi. Ouais. Je ne crois pas, en fait. C'est nous qui nous sommes épuisés.
Le dojo, c'était pas un lieu éphémère. Le dojo, il a existé combien de temps?
Le dojo a accueilli des projections sur peut-être 5 ans, comme ça. Et aujourd'hui, il existe encore en tant que lieu de pratique de judo. Voilà. Nous, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'au début, donc dans l'ignorance dans laquelle on était de ce qu'on voulait faire avec le cinéma, on s'est d'abord dit on projette des films, donc dans un cadre... tu sais, c'est ce qui a écrit à la fin des DVD, c'est-à-dire on n'était finalement pas au-delà du cadre familial, etc. Sauf que quand on était tous parisiens et plus ou moins mondains, on avait des projections à 100 personnes où tu commençais à voir arriver des espèces de sommités, de l'indépendance, etc. Et donc, on était en train de monter un petit truc culturel, quoi, comme ça. Et puis, ça nous a assez vite brouté parce qu'en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on essayait de faire. Nous, on essayait d'interroger quelque chose. Donc après, on a commencé à essayer de réfléchir à un vrai travail de programmation. Donc on avait un travail éditorial, si tu veux, où on affichait des affiches dans la rue comme ça, et où on éditait des programmes qui étaient vraiment très joliment faits, sans aucun moyen, la reprographie de base, si tu veux, la photocopieuse, mais où on essayait de travailler des questions, etc.
Et comment se décidait justement la programmation, enfin, comment vous travailliez ça à ce moment-là? C'est qui
on se faisait confiance, on était peut-être 4, 5.
Toi aussi, Julien, il y a une histoire de programmation aussi.
On était 4 ou 5, quoi.
Il y a une programmation qui se faisait, toi aussi, à Dodascadence. Vous aviez fait une programmation.
Oui, enfin, on voulait tester. C'est ça qu'on voulait expérimenter, faire une programmation. Mais on ne savait pas, personne ne savait des films. C'est parti de l'envie de plusieurs personnes de montrer certains films. Et on s'est dit, bon, bah, vas-y, montre-le. Et puis pour certains d'entre nous qui connaissions le film de